Mohamed Sifaoui, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur Radio JM. Vous serez dimanche l'invité du Keren Hayesod en compagnie de Richard Prasquier, président du Keren Hayesod France, pour une conférence à 11h à la Villa Gabi, la montée du terrorisme en Europe, ses origines et son évolution. Alors, je ne sais pas s'il est encore nécessaire de vous présenter, monsieur Sifaoui. On vous connaît, vous êtes un journaliste, écrivain, vous êtes réalisateur également, et je pense qu'un des livres qui va certainement venir au cours de cette conférence, c'est celui que vous avez écrit, Combattre le terrorisme islamiste, qui est pile poil avec le sujet de cette conférence. Venir à Marseille à l'invitation du Keren Hayesod, j'allais dire, ça fait partie aussi du travail que vous voulez effectuer, vous qui êtes toujours là pour rappeler que, c'est, je cite ce qui est écrit sur votre blog, des opinions qui refusent la compromission.
Oui, enfin, pour moi, d'abord, il y a une règle, je ne m'interdis pas de dialoguer avec tout le monde, à condition que mes interlocuteurs ne soient pas des extrémistes, et en l'occurrence, ceux qui m'ont invité ne le sont pas, mènent un engagement totalement respectable pour Israël, et ils ont le droit de le faire, donc je ne suis pas de ceux, évidemment, vous connaissez, je pense, mon discours, qui ostracise ou qui sont dans une...
Mais c'est bien votre force et le courage que vous avez que nous admirons.
Je ne sais pas si c'est du courage. En tout cas, j'ai choisi, dans ma trajectoire, de ne pas être dans le suivisme. J'ai toujours, de manière libre et indépendante, choisi à la fois et mes ennemis et, je dirais, et mes adversaires. Je leur laisse même pas le temps de me choisir. C'est moi qui les choisis.
C'est vous qui décidez.
Je me suis accordé ce luxe et comme je choisis mes ennemis, je choisis aussi mes amis. De ce point de vue-là, j'ai toujours veillé à ce que à être jugé d'abord par ma conscience, ensuite évidemment par les lecteurs, par les spectateurs, etc. Mais ne jamais se laisser impressionner par justement une certaine mode, si j'ose dire, qui depuis quelques années tente de marginaliser les associations juives ou sionistes, pour reprendre la vocation première, sachant que le sionisme n'est aucunement une insulte, peut-être que certains ne le savent pas, donc il faut toujours le rappeler. Et donc, de ce point de vue-là, même si je garde évidemment, et ça les gens le savent, mon indépendance et mon regard critique, y compris sur la politique israélienne, y compris sur le gouvernement israélien. C'est-à-dire que je ne m'interdis pas, par ailleurs, de formuler des critiques lorsque j'estime que celles-ci sont justifiées, sans pour autant entrer dans une logique
d'ostracisme. Si on vous cite, c'est vous qui dites que l'existence de l'État d'Israël ne peut en aucun cas être un sujet de débat, et je pense que tout est dit. Voilà.
Mais oui.
Cette phrase résume bien ce que vous voulez dire. Il s'agit vraiment de cela et c'est ce que vous défendez. Alors, on vous a vu, quand je parle de courage, parce que on vous a vu très souvent prendre position. Vous êtes franco-algérien et face à la politique de l'Algérie très souvent. D'ailleurs, si on consulte votre blog, il y a plusieurs articles sur ce sujet. Et c'est vrai que sur la montée du terrorisme, vous avez toujours été très clair, comme vous le dites, c'est la lutte contre les extrémismes. Et dans ce livre que j'ai cité, Combattre le terrorisme islamiste, vous êtes remonté à toutes, aux origines salafistes, en fait, de toute l'ascension de cette idéologie qui date des années 80. Et c'est important de retracer cette histoire. C'est aussi ce que vous ferez dimanche?
Oui, j'essaierai de remettre en perspective ce phénomène dans son contexte à la fois historique, sociologique et politique. Il est important, je pense, de ne pas isoler le phénomène de sa portée internationale. En l'occurrence, je l'ai toujours dit, et c'est la raison pour laquelle ça a étonné depuis plusieurs années, je pense que lorsque, notamment dans la communauté juive, on m'a, entre guillemets, découvert, c'est quand j'ai dit tout simplement que pour moi, le terrorisme du Hamas, comme le terrorisme du GIA, devait être condamné. Alors ça a étonné tout le monde. Je le dis d'abord, c'est pas pour une quelconque sympathie pour l'État d'Israël, que je considère comme étant un État comme un autre qui a le droit de se défendre, mais c'est surtout pour être cohérent avec ma démarche. Et ma démarche est la suivante. C'est d'abord condamner le terrorisme là où il s'exprime. Je n'ai pas de compassion sélective. C'est-à-dire que il n'y a pas à mes yeux de bonnes et de mauvaises victimes du terrorisme. Il n'y a que des victimes du terrorisme. Et ça, c'est important de le rappeler.
Oui, c'est ce que vous reprochez. C'est ce que vous reprochez aux autres très souvent d'avoir deux poids deux mesures face au terrorisme.
C'est évidemment inacceptable sur le plan humain, c'est inacceptable au niveau du droit, c'est inacceptable au niveau de la logique, c'est inacceptable au niveau de la conscience, je dirais. C'est la vie d'un être humain n'est pas sacrée selon son identité, selon son passeport, selon son origine, selon sa croyance ou sa non-croyance. Il faut qu'il y ait des règles qui nous animent tous, et parmi ces règles, il y a évidemment la question de la sacralité de la vie humaine. Alors après, une fois qu'on a dit ça, je ne suis pas un pacifiste, je suis par ailleurs quelqu'un qui considère que seuls les États sont détenteurs de la violence légitime. Absolument. En l'occurrence, les États, parce que les États peuvent être interpellés pour rendre des comptes, y compris au niveau des juridictions internationales, etc. Un terroriste n'appartient qu'à une entité qui, dans le meilleur des cas, est un proto-État, c'est le cas de Daesh, par exemple, mais qui n'a pas, y compris des existences juridiques, qui lui permettrait demain, ou qui nous permettrait demain, de l'interpeller si jamais il y a des excès. Pour mettre les pieds dans le plat, oui. Beaucoup veulent faire justement ce parallèle, en disant oui, mais quand l'État d'Israël ou l'armée israélienne se défend, le fait violemment et tue des personnes. Évidemment, sauf que l'État d'Israël, encore une fois, est un État et il est interpellé. Je pense que les gens ne se quel que soit d'ailleurs leur positionnement, ne s'empêchent pas d'interpeller l'État d'Israël, et ils ont raison parfois de le faire. Et l'État d'Israël répond selon les critères internationaux.
Bien sûr.
Comme d'autres pays sont parfois interpellés. Mais je dirais peut-être que ce pays est interpellé un peu plus que d'autres. Donc c'est ce qui a attiré mon attention dès le départ. Et je le dis très simplement, vous savez, j'ai vécu la guerre civile algérienne.
Oui.
Il y a eu 200 000 morts. Je n'ai pas souvenance qu'il y ait eu en France de grandes manifestations.
Autant de soulèvements, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Se roulant par terre en criant mort au GIA, par exemple. Alors qu'on avait vu des femmes enceintes éventrées, des hommes égorgés, etc. Là, on le voit à chaque fois qu'il y a un conflit. Alors, sans rentrer, parce que là, on l'a encore, c'est évidemment complexe, on le sait, etc. Mais dès qu'il y a un conflit, sans même chercher à connaître les tenants et les aboutissants, on a une hystérie collective.
Oui.
On a une hystérie collective qui s'installe. Je ne dis pas qu'il ne faille pas dénoncer ou condamner. Quand il y a une guerre, il faut toujours la condamner. Par principe, il faut toujours dire que c'est dommage que les gens s'entourent.
Bien sûr, bien sûr.
Mais ce qui m'interpelle, c'est cette hystérie collective comme celle, par exemple, de juillet 2014, où on est parti jusqu'à tenir des propos antisémites, racistes, complètement surréalistes, au prétexte de la défense d'une population. C'est-à-dire qu'au prétexte d'une défense d'une population dite fragilisée, on va convoquer les arguments les plus fascisants pour dénoncer.
Et ce qu'on ne fait pas face à d'autres, quand on pense aux Tchétchènes, quand on pense au Darfour, on n'a pas vu les mêmes mouvements de soulèvement. C'est toujours vis-à-vis d'Israël, quelque chose sont un peu disproportionné. C'est pour ça que je parlais de deux poids, deux mesures.
Pour avoir participé à des manifestations, justement, vous citiez le Darfour, pour avoir manifesté avec plusieurs de mes amis à des manifestations de soutien pour les Darfouristes.
Il y avait peu de monde.
Qu'à l'époque, on se comptait. C'est-à-dire qu'on était généralement toujours les mêmes, que dans le meilleur des cas, on remplissait l'esplanade des droits de l'homme au Trocadéro, et que ça s'arrêtait là.
Absolument.
Alors que dans d'autres situations, je vous dis, c'est l'hystérie collective.
Vous disiez vous-même que les gens ne manifestent pas pour les Palestiniens, ils manifestent contre Israël. Et je pense que ça résume un petit peu.
Ça, j'ai constaté à plusieurs reprises.
Absolument.
J'ai constaté à plusieurs reprises, dans le sens où je pense. Alors, il faut aussi comprendre ce que représente.
C'est toute proportion. Mais c'est quand même important
collective.
De. Voilà, c'est ça aussi.
C'est-à-dire, il faut être serein et lucide, sans passion. Je pense que plusieurs de ceux qui manifestent contre Israël sont des gens qui ont été travaillés par plusieurs années de propagande. Qui est d'abord sorti des milieux islamistes, qui est ensuite sorti des milieux, des États autocratiques et dictatoriaux, qui avaient besoin d'entretenir cet ennemi extérieur pour pouvoir cimenter la société et préfabriquer une légitimité.
Absolument.
La plupart de ces régimes, je parle des régimes arabes, sont illégitimes. Et la meilleure manière, vous savez, c'est une vieille méthode qu'on retrouve dans toutes les dictatures et dans tous les régimes, chez tous les régimes autoritaires, c'est de constituer la notion d'ennemi extérieur et d'ennemi intérieur. Or, l'ennemi extérieur, c'est souvent Israël, mais pas seulement, mais aussi l'Occident, d'une manière générale, oui. L'Amérique, la France,
de
etc.
plus en plus, bien sûr.
L'ennemi intérieur, ce sont souvent soit des minorités ethno-religieuses, soit des minorités sexuelles, soit des minorités qui suivent des logiques philosophiques différentes, par exemple, dans le cas de certains pays maghrébins, par exemple, les démocrates, par exemple, les laïcs, par exemple, les féministes, etc.
Bien sûr.
Donc, ces notions d'ennemi intérieur et d'ennemi extérieur permettent à des régimes illégitimes de pérenniser leur système et finalement d'entretenir la mobilisation de leurs citoyens ou de leurs ressortissants en la détournant sur d'autres conflits, sur d'autres sujets qui les intéressent pas directement. Et cette pensée s'est malheureusement à traverser les frontières, à traverser la Méditerranée et a touché, je dirais, un certain nombre de populations aujourd'hui françaises d'origine maghrébine, pas toutes évidemment. Et par ailleurs, l'islamisme a joué sur l'introduction de ça j'essaierai d'expliquer pendant la conférence, l'introduction de la donne antisémite dans le discours islamiste, contrairement à ce qu'on croit, est assez récente. C'est-à-dire que jusqu'aux années 60, l'antisémitisme n'était pas, enfin, il était à la marge. Mm-hmm. Il est rentré au cœur du dispositif idéologique islamiste à partir de la première intifada, je dirais.
D'accord.
De manière totalement cynique, parce qu'ils ont vu qu'ils pouvaient mobiliser à partir de là. Alors ça ne veut pas dire qu'avant ça n'existait pas, ça existait dans les discours d'un certain Abdallah Azzam en Afghanistan, par exemple, pendant la première guerre d'Afghanistan, parce que lui-même était palestinien, c'était un islamiste palestinien, donc il était sensible à ces sujets, mais au départ...
C'était moins présent dans les discours.
Je prends un exemple, Ben Laden, par exemple, quand il s'est embrouillé avec la monarchie saoudienne, il s'était embrouillé sur le fait qu'il voulait, lui, combattre Saddam Hussein. Or, Saddam Hussein menaçait l'existence de l'État d'Israël, il voulait bombarder. Donc, c'était pas Israël qui était
tué,
c'était le fait que lui voulait d'abord lutter contre des laïcs, des régimes arabes laïcs,
bien sûr.
Et il ne voulait surtout pas la présence de forces occidentales sur le territoire saoudien. C'est une petite indication.
Ouais. Bien sûr, c'est un vaste sujet, c'est pour ça que vous nous avez donné très envie, Mohamed Sifaoui, de vous rejoindre dimanche matin, donc pour cette conférence à 11h à la Villa Gabi. Donc, je pense qu'il y aura du monde. Docteur Richard Prasquier sera à vos côtés. C'est donc, je le rappelle, au bénéfice des programmes sociaux éducatifs du Keren Ayesot. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. À très bientôt, Mohamed Sifaoui. Au revoir.